Jeudi économie.
Jeudi économie.
Nous disons économie chaque jeudi autour d'un thème d'actualité lié au secteur économique.
Ce secteur-là, l'économie de marché est récente en Algérie.
Et par rapport au code de commerce, donc vous avez tous les moyens de recours.
Jeudi économie.
Jeudi économie.
Experts, hommes d'affaires et chercheurs analysent l'actualité économique.
L'autosuffisance alimentaire
le prix du baril donc continue.
Jeudi économie, votre émission de décryptage économique.
Jeudi économie.
Jeudi économie, c'est chaque jeudi de midi à 13h sur Radio Algérie Internationale. Jeudi économie.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique, Jeudi Économie. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et le rôle dans le développement des entreprises, c'est le thème de ce numéro de Jeudi Économie. Les nouvelles technologies au sein des entreprises autour des systèmes d'information représentent des dépenses jusqu'à 7% du chiffre d'affaires en moyenne dans les entreprises matures. L'éthique contribue aujourd'hui au développement de l'économie. Nos entreprises maîtrisent-elles aujourd'hui ces nouvelles technologies? Quel est l'impact des TIC sur la compétitivité des entreprises? Des questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités. Je reçois sur ce plateau Monsieur Ammar Khadraoui, fondateur et directeur général d'Asmos Consulting. C'est un cabinet de conseil. Est avec nous également Monsieur Reda Rebi. Il est donc expert nouveau média. Est avec nous également Monsieur Saïd Babassi, directeur général de Deltalog. C'est un bureau des systèmes engineering, des systèmes d'information. Merci donc mes invités d'avoir accepté notre invitation. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que les TIC, Monsieur Rebi?
Eh bien, bonjour, merci Asma pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. C'est un très vaste domaine aujourd'hui que sont les TIC, mais pour être très honnête avec vous, en termes de terminologie, je pense que la terminologie est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, en étant en 2018, il vaut mieux parler de digital et de numérique plutôt que de TIC, qui devient une terminologie qui est essentiellement axée sur des secteurs d'activité qui sont bien précis. Aujourd'hui, on parle de digital et de numérique parce que tout simplement, ça englobe beaucoup plus de choses que quand la première terminologie a été inventée ou a été utilisée. Aujourd'hui, justement, avec l'accélération des bandes passantes et du débit internet dont disposent les entreprises en particulier, je ne parle pas forcément de l'Algérie, je parle de manière générale, les utilisations qu'on fait des systèmes d'information sont devenues beaucoup plus variées. Il y a beaucoup plus de choses qu'on arrive à faire et forcément, on arrive à un état aujourd'hui où la terminologie a dû changer. Alors, effectivement, il y a quelques années, on voyait dans toute cette évolution technologique uniquement des moyens de communication ou d'information. Aujourd'hui, l'utilisation qu'on en fait est bien plus vaste et effectivement, la terminologie doit être un peu plus renouvelée.
Mm-hmm.
Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis.
Alors, si nouvelle technologie, j'ai envie de vous dire que on pourrait les catégoriser en quatre structures. Il y a d'abord les technologies traditionnelles, et au-delà des technologies, c'est les systèmes et les technologies. Un système d'information reste dans les technologies et c'est la partie non visible et c'est certaines fois le plus gros de l'investissement des sociétés avec toute la structure architecturale qui est nécessaire pour faire transiter des flux, des fonctionnalités, de la data, du monitoring, etc. Deuxième aspect, c'est les technologies dites modernes. Le digital aujourd'hui, c'est un grand mot, pour ne pas dire un gros mot, c'est une partie visible, mais ça n'est rien de plus qu'une partie visible, mais surtout surtout une partie qui permet des nouveaux business models et qui permet des nouveaux canaux de distribution. C'est là où ça, c'est intéressant. Les systèmes traditionnels, ils permettaient avant tout de gérer l'entreprise, de structurer l'entreprise et de communiquer entre les entreprises. Là, on communique non plus avec des clients, mais avec des communautés et on développe des canaux de distribution. Donc, c'est pour la partie moderne. Après, il y a des technologies nouvelles. Évidemment, tous les jours, il y a des nouvelles technologies, les algorithmes d'apprenance, l'intelligence artificielle.
Oui.
On en est loin aujourd'hui de ces aspects-là. Et il y a des technologies à venir, certains que l'on connaît, d'autres que l'on ne connaît pas. Uh-huh. Ce qui est intéressant,
oui.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de réfléchir à l'usage et à la fonctionnalité. Aujourd'hui, on est dans un écosystème en Algérie dans lequel on met le point, l'exergue et la visibilité sur les aspects digitaux. Oui, c'est peut-être ce qu'on arrive à le plus maîtriser parce que ça n'a pas demandé de passer par des savoirs et des compétences traditionnelles. Et du coup, en tant qu'Africain, en tant que Maghrébin, on avait la capacité d'accélérer notre capacité à délivrer des projets de digital. Mais finalement, pour que l'entreprise puisse être performante, pour que l'État puisse être performant, pour que les écosystèmes soient performants, c'est tout un monde des nouvelles technologies. Quand on disait c'est 7% du chiffre d'affaires, c'est une moyenne aujourd'hui internationale de dire qu'on mesure le poids des investissements en technologie, en tout cas des directions des systèmes d'information avec tout ce qu'elles peuvent regrouper, parce que les organisations aujourd'hui modernes sont de plus en plus complexes, avec des complexes, avec des patrons du digital, des patrons de l'infrastructure, des patrons de la data. On a des nouveaux métiers qui naissent tous les jours. Et c'est sur ça, en réalité, que le gros de la nouvelle technologie devrait se concentrer. Mm-hmm. Il y a l'aspect moderne, effectivement, qui draine aujourd'hui un marché énorme en Algérie, autour du digital, qui permet des usages et des fonctionnalités extraordinaires, qui permet de disrupter nos modèles, de disrupter nos canaux de distribution. Mais finalement, l'entreprise ne sera performante, l'écosystème ne sera performant que lorsqu'on aura industrialisé nos process, qu'on arrêtera de travailler de manière artisanale. Et les plus grosses entreprises algériennes ont ces besoins-là aujourd'hui, de passer d'une structure artisanale de gestion, excusez-moi du terme, mais l'artisan est un terme noble en soi, mais la problématique, c'est qu'il n'arrive pas à adresser un mass market. Mmh. La logique de l'industrialisation des processus, c'est de passer à des niveaux de performance, à des niveaux d'excellence opérationnelle. Pour se concentrer plus sur la mesure et l'action face à la mesure, vous savez, dans le business, il y a ce qu'on appelle le temps de l'information business. Si j'ai l'information 3 semaines après, je ne peux pas agir sur mon marché.
C'est
il y a
clair.
Des informations, c'est day to day, hour to hour, week to week, month to month. Et c'est à ce moment-là que l'on doit penser et structurer nos systèmes d'information, nos architectures. Bien évidemment, les nouvelles technologies ont emmené le cloud. Mais à quoi ça sert de parler de cloud lorsqu'on n'a pas aujourd'hui les architectures nécessaires, mais en même temps qu'on a la capacité de développer nos les entreprises ont la capacité de développer leur propre data center. La modernité amène des nouvelles technologies sur le web. Effectivement, les data centers doivent se structurer autour de systèmes web qui sont capables d'adresser des flux de plus en plus importants entrant, etc. Il y a des métiers, il faut qu'on comprenne les métiers, il faut qu'on comprenne cette complexité-là. Il faut aussi qu'on se concentre à développer les compétences et l'écosystème de toute la partie des nouvelles technologies, en fait, du système d'information, qui n'est pas visible. Les entreprises aujourd'hui pêchent à trouver des intégrateurs pour des systèmes d'information modernes. C'est des projets à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. Et c'est toute une manne financière que l'on estime chez Asmos Consulting aujourd'hui un marché de 450 millions à 500 millions d'euros. Dans les institutions publiques, dans les entreprises qui se modernisent. Mmh. Les plus grandes entreprises que l'on connaît sont en train d'investir sur du SAP, mais on n'a pas l'écosystème. C'est bien d'investir, mais comment on exploite après? Comment on fait de l'amélioration continue en permanence? La problématique, elle est là. Des entreprises veulent implémenter du Sage, il n'y a pas d'intégrateur assez dynamique et assez compétent. C'est ça la réflexion que nous portons au sein d'Asmos Consulting.
Oui, monsieur
va passer justement sur ce point. Quel état des lieux on pourrait faire aujourd'hui de la maîtrise des TIC en Algérie, au sein de nos entreprises et en général?
Très bien. En fait, on va essayer de s'insérer dans l'interstice que nous a laissé notre ami Rtaraoui. En fait, il a dit pas mal de choses. À Deltalog, ça fait quand même une dizaine d'années que nous accompagnons pas mal d'entreprises, ça soit, surtout en général des PME. Le constat est assez catastrophique. Aujourd'hui, on peut revenir d'abord sur la définition. Moi, j'apporterai un regard un peu plus systémique de la chose. Nous parlons de TIC. D'ailleurs, moi, j'ai découvert le mot TIC uniquement en Algérie. Moi, j'ai pas découvert ailleurs. Donc, le TIC, en fait, moi, je dirais plutôt, c'est tout ce qui permettrait d'automatiser les flux de collaboration inter-individu, inter-personne, que ce soit dans une entreprise ou bien dans une société. Ensuite, dès que vous passez dans un système où vous allez automatiser entièrement ou partiellement certaines choses, vous allez avoir besoin de technologie, d'informatique et d'électronique en général. Donc, c'est un peu les deux qui font que nous parlons de système, de TIC. Donc, concernant maintenant l'entreprise, de quoi a-t-elle besoin? En général, elle a besoin d'un système d'information. Donc, système d'information, on va retrouver tout ce qui est processus, tout ce qui est workflow, tout ce qui est données, base de données, etc., tout ce qui est informatique. Souvent, on confond système d'information et informatique. Mais en fait, on va retrouver donc tout cet aspect-là qui va permettre d'organiser, de structurer l'entreprise et de la rendre efficace et efficiente. Et c'est un peu l'objectif de n'importe quelle entreprise. Il faut qu'elle soit efficace et efficiente.
Oui.
Et aujourd'hui, en temps de crise, c'est encore plus important, plus urgent d'être, j'allais dire, de ne pas perdre du temps, de ne pas gaspiller du temps, de son énergie et son argent, etc. Donc, par rapport à ce point-là, en Algérie, les structures, les organismes publics ont toujours été le driver du développement des TIC en Algérie. Contrairement à ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, c'est en général les privés qui drivent, qui tirent, en fait. Hein. Et donc, en fait, ça fait 10 ans que, donc, encore une fois, je suis un acteur, en même temps observateur. Ce qui se passe, c'est que on voit que le marché est tiré souvent par les grosses infrastructures, par exemple, réseau, base de données, etc. Donc, les gros éditeurs qui sont venus en Algérie ont toujours été drivés par les grandes structures. Or, en Algérie, nous avons 94% de TPE et de PME, et un peu moins, et un peu moins donc de grands comptes. Donc il y a une vraie problématique, c'est qu'il y a un grand tissu industriel ou économique ou commercial, si vous voulez, qui n'est pas forcément correctement informatisé. Et donc, pour différentes raisons, c'est un débat assez large. Donc finalement, le constat est en tout cas celui-là. Je ne parle pas des grandes entreprises qui sont, on peut les compter vraiment sur un petit bout de papier, mais je parle tout simplement.
Très long alors.
Hein. Ah, très très long. En fait, si on parle d'une centaine d'entreprises, un truc comme ça, 94, c'est un chiffre officiel, 14% des entreprises agences sont des TPE. Et avant rien, c'est sur le site, c'était à l'administration du commerce et l'industrie.
Ouais.
Donc en fait, comment voulez-vous avoir des TIC très développés en Algérie? En plus maintenant, en 2018-2017, temps de crise, il y a une vraie problématique pour accélérer l'appropriation des TIC dans l'entreprise. Donc l'État, pour nous, notre point de vue, il n'est pas reluisant. Et je vous informe qu'il y a eu des travaux sur la stratégie d'exploitation algérienne. Et il y a un État qui a été posé, c'était en fait une très faible utilisation des TIC par l'entreprise algérienne. C'est pour l'État, et je ne vais pas prendre la parole plus que ça, peut-être je reviendrai un peu plus tard.
Oui, Monsieur Rebbi, justement, pourquoi nos entreprises ont du mal à introduire l'usage des TIC aujourd'hui dans leur fonctionnement, dans leur quotidien, malgré la généralisation et l'appel des autorités à faire donc le contraire?
C'est une question assez compliquée parce que je dirais déjà pour rebondir sur ce que disait Monsieur Khadalaoui, je vais aller plus loin en disant que ce n'est pas une méthode artisanale, on dirait plutôt que c'est une méthode archaïque. Alors c'est une question de mentalité. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas encore cette capacité à passer d'une méthode archaïque de travailler vers une méthode qui où on va généraliser l'utilisation des systèmes d'information au niveau d'une entreprise. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une réponse qui soit bien prête pour venir expliquer ce phénomène. Toutefois, j'ai envie de dire effectivement le contexte économique aujourd'hui fait en sorte que la nécessité de numériser ou d'informatiser ces systèmes et ces process de manière générale est là. Et au-delà de tout ça, aujourd'hui, nous sommes dans un marché où la population, autrement dit, les usages que font la population algérienne des TIC devient de plus en plus importante. D'ailleurs, je me réjouis de pouvoir venir en parler à la radio, car aujourd'hui, c'est un secteur plus généralement pas forcément celui de la radio, mais celui des médias qui est dans une mutation digitale très importante. Il y a quelques années, on estimait les audiences des médias traditionnels bien à travers les canaux traditionnels. Aujourd'hui, si on a envie de pouvoir estimer si un programme audiovisuel ou un contenu audiovisuel ou peu importe, c'est-à-dire un contenu d'information fonctionne, et ben on l'estime sur digital. Autrement dit, il y a un véritable phénomène de digitalisation des usages qui a été opéré. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'équipement, le taux d'équipement a largement progressé. Aujourd'hui, on se retrouve avec des offres de smartphones qui sont à des prix totalement accessibles. On se retrouve avec des formules d'accès à Internet qui sont totalement accessibles. Donc, on se retrouve avec un marché où la barrière, parce que jusqu'à il y a quelques années, il y avait une certaine barrière qui était une barrière, on va dire, d'ordre socio-professionnel. Il fallait avoir les moyens de posséder un ordinateur, de pouvoir se payer une connexion à Internet, et ça constitue une barrière au niveau de la société. Aujourd'hui, cette barrière-là n'est plus socio-professionnelle, elle se situe plutôt une barrière d'âge. Donc, on se retrouve avec une partie de la population qui se sent totalement intégrée dans ce monde-là et qui arrive totalement à maîtriser toutes ces technologies et qui a envie forcément de pouvoir accéder à un ensemble de services, à un ensemble de produits qui sont fournis par les entreprises à travers le digital, et ils se retrouvent justement face à un ensemble d'entreprises, en particulier les PME, qui ne sont pas digitalisées, qui n'ont pas une offre à apporter au public. Donc dans tout ce qui concerne le B2C, on se retrouve effectivement dans une situation où les entreprises sont sous-informatisées, où aujourd'hui on sur une problématique comme celle du e-commerce, on voit qu'il y a un large retard qui est accumulé par nos entreprises, même si effectivement le législateur a depuis quelque temps promulgué une loi qui vient encadrer cette activité-là et qui est forcément un atout très intéressant pour les acteurs du e-commerce. Mais on se retrouve malheureusement dans la situation où ces PME-là n'arrivent pas encore à pouvoir déployer des solutions et des offres auprès du public. Monsieur Babassi parlait justement des entreprises publiques qui drivent ça. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est essentiellement des entreprises qui font beaucoup de B2B, qui ont une nécessité de devoir upgrader leur système pour pouvoir fonctionner avec un monde qui est en mutation, parce qu'ils ont des partenaires étrangers, parce que donc il y a une nécessité de s'upgrader. Malheureusement, effectivement, pour les PME, ceux qui vont chercher demain à faire du e-commerce, il y a un véritable retard qui est accumulé. Et il va falloir effectivement pouvoir déployer des solutions pour permettre à tous ces gens-là d'intégrer ce monde-là. Mais fondamentalement, c'est une question de mentalité. Passer, adopter l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir digitaliser l'ensemble de ces systèmes d'information, c'est une question d'état d'esprit avant tout. Malheureusement, je me retrouve encore avec des gens qui vont vous dire demain « Ah, un email ? Non, passez-moi un coup de fil, c'est mieux. » Je vois encore des entreprises qui travaillent de cette manière. Je vois que M. Dalaoui n'est pas forcément d'accord, mais c'est une réalité qui est encore... Réalité, une certaine réalité, bien sûr. On ne veut pas forcément généraliser, mais on voit malheureusement encore ça. Donc, c'est fondamentalement une question d'état d'esprit, je dirais.
Monsieur Khadraoui.
Moi, je dirais que je suis un éternel optimiste. Pourquoi ? Parce que je ne réfléchis pas à des constats forcément liés à un état de l'art, mais à des dynamiques. Il y a des dynamiques marché, et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on a en Algérie une conscience et une maturité de structuration des marchés. Et on arrive, avec cette structuration des marchés, à se poser les bonnes questions. Pendant des années, on n'avait pas les compétences au sein de l'entreprise. C'est ça qui est réel. Mais on n'avait pas les compétences au sein de l'entreprise parce que les prestataires de services n'étaient pas présents. Et les prestataires de services de qualité n'étaient pas disponibles. Et du coup, on n'arrivait pas à faire émerger de la compétence. Il faut savoir qu'une entreprise, pour évoluer, elle a besoin de tout son entourage. Mais c'est aussi parce que on avait des structures d'entreprise familiale, où on se débrouillait par soi-même, où on avait une prise de décision entre soi. Et le monde est en train de changer. La crise a changé beaucoup de choses. On passe d'un marché de la demande à un marché de l'offre. C'est-à-dire que quand avant, c'était le client qui absorbait tout ce qu'on proposait sur le marché et qu'on n'arrivait pas on était en rupture, aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, si vous regardez les acteurs de l'agroalimentaire, ils peinent parce que l'offre est devenue très vaste, les acteurs sont très vastes, le marketing se faisant, il y a des marques qui arrivent à se positionner, d'autres qui ne se positionnent pas. Du coup, on doit être performant. On va plus chercher du chiffre d'affaires, on va chercher de la marge. Et pour faire de la marge, faut réduire les coûts. Donc, faut être plus performant, faut être plus efficace. Et pour ça, il s'agit d'aller mesurer ça, automatiser ça. Il y a aussi le fait de réduire les coûts par des nouveaux canaux de distribution. Le biais internet, le e-commerce, comment être chez le client sans se déplacer, c'est pas mal, ça fait des économies. J'ai pas besoin de showroom, j'ai pas besoin d'immobiliser de la ressource humaine et de la ressource produit, etc., etc. Donc on arrive à un train logique de notre maturité marché, et ça c'est intéressant. Maintenant, il y a aussi, grâce à ça, l'émergence de plein de sociétés, de plein d'entreprises, de prestataires de services, des cabinets de conseil, des sociétés d'intégration, des prestataires de développement, des acteurs de la TMA. Vous savez, l'écosystème, il est complexe. Aujourd'hui, on n'en a que certaines briques, on n'a pas toutes les briques. C'est bien d'investir dans des systèmes d'information, des nouvelles technologies. Faut les exploiter et faut travailler en amélioration continue. Les gouvernances sont en train de changer. Les sociétés familiales sont en train de se structurer, de monter des holdings, de faire en sorte d'assainir leur gestion, leur modèle de structure. Ils savent que aujourd'hui, les ressources humaines est devenu capital, donc ils la structurent autour de ça. Et puis, il y a un autre dont parlait mon ami, il y a aussi la problématique du merge and acquisition. Aujourd'hui, on a des sociétés qui se rapprochent les unes des autres. On fusionne, on achète, on se diversifie par acquisition. Il faut savoir se structurer pour ça. Le deuxième chose, il y a une conscience qui est liée à l'industrialisation, qui est liée à la performance suite à la crise que je disais. La troisième chose, c'est qu'il y a des projets. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a plus de demandes de projets que d'acteurs algériens qui sont capables de les réaliser. Il y a énormément de sociétés étrangères qui font des projets à plusieurs millions d'euros sur des projets de nouvelles technologies. À nous, en Algérie, d'être performants, de monter en compétences, de prouver notre proposition de valeur pour aller capter ces marchés-là. Je vous dis, il y a 450 millions d'euros aujourd'hui, à peu près, de chiffre d'affaires qui part à l'étranger parce que c'est des sociétés. Et ces sociétés-là, c'est parce qu'elles ont la compétence, elles ont la proposition. Elles savent, moi, aujourd'hui, je ne sais pas encore aller voir Sonatrach et lui proposer de lui implémenter un système d'information. Je n'ai pas les ressources. Je serai obligé de m'associer avec un grand leader international. C'est normal. Montant en maturité, dans 5, 6, 10 ans, on aura des acteurs algériens, comme nos voisins maghrébins ont réussi à le faire, qui le font. La troisième chose, c'est qu'il y a une volonté, mais cette volonté, elle ne peut être viable que s'il y a le niveau de confiance de la proposition de valeur de l'ensemble des acteurs dont je parlais. Il faut qu'on soit digne de confiance face à nos clients, de pouvoir leur proposer la vraie valeur ajoutée et de les accompagner. On est sur un marché, par exemple, du conseil de l'intégration des années 90 en France. Donc ne travaillons pas comme en 2018 en France. Essayons d'avoir la structure de réflexion, de la pédagogie, de l'accompagnement des années 90 en France, de être proche de ses clients, être proche des acteurs. On est sur des problématiques de transformation. C'est comment on transforme. Oui. Pour se transformer, c'est des mindsets, c'est des logiques. Donc du coup, c'est l'humain.
C'est des freins, c'est beaucoup le changement, tout le monde n'est pas apte au changement. Changer, c'est le danger. Choisir, c'est renoncer.
Donc, Monsieur Babassi, comme l'a souligné Monsieur Khadraoui, aujourd'hui, on connaît une émergence du secteur des TIC dans nos entreprises ou en général, grâce notamment à nos compétences, grâce au personnel qui sont assez qualifiés au sein de nos entreprises. Oui, donc aujourd'hui, en matière de formation, en matière donc les gens qui sont au sein des entreprises sont plutôt maîtrisent ces TIC. Okay.
Très bien. En fait, je vais un peu essayer de revoir, revenir sur une problématique. Effectivement, il n'y a pas assez d'entreprises ou d'acteurs dans le système de TIC de manière générale. La raison est non pas parce que ils sont pas compétents, ils sont pas nombreux, parce qu'en fait la demande initiale n'est pas forcément forte, n'est pas constante. En fait, on n'arrive pas en Algérie à dépasser une certaine masse critique pour pouvoir en fait avoir un certain nombre d'entreprises importantes.
Non.
Ah si. Alors en fait la difficulté, c'est que si encore une fois, si je reviens sur la dynamique, vous avez depuis maintenant 10 ans. C'est le marché public qui drive encore une fois le développement des TIC. Et quand vous savez que ça passe par des cahiers de charges, et qu'un cahier de charges ou des appels d'offres prennent 2, 3, 4 à 5 ans pour qu'ils puissent se sortir sur le terrain, on fait que ça depuis maintenant pas mal d'années, en fait, il faut avoir vraiment les poches profondes pour pouvoir résister en fait à ce temps-là.
Mais Cyril, tu ne penses pas que si Cévital avait trouvé des acteurs en Algérie, il aurait fait son projet SAP en Algérie? C'est plusieurs millions d'euros.
Attends, j'y arrive. En fait, on parle d'une entreprise. Moi, je parle de manière générale de toute l'entreprise en Algérie. S'il n'y a pas une forte demande suffisamment sur un seuil suffisamment avec un seuil suffisamment important, on ne pourra jamais voir l'émergence d'un certain nombre d'entreprises importantes, en tout cas en taille. Les chiffres sont là. Depuis maintenant quelques années, la crise aidant, nous voyons certaines entreprises privées avec la relève, avec la transformation effectivement en fait du management familial qui a en fait laissé en fait ses enfants en fait prendre un peu le relais. Mais il reste encore très peu. En fait, les groupes de satellites privés ne sont pas encore en nombre important. Donc, il y a une vraie problématique, c'est que nous n'arrivons pas en fait à exister. Nous, en tant que matière grise, en tant que consultant, en tant que je parle de prestations de services purs, je parle pas de matériel, nous n'arrivons pas à exister suffisamment parce que tout simplement, encore une fois, il n'y a pas suffisamment de demandes structurées, etc. Dans le temps, il s'agit pas d'avoir un projet ou deux projets. Il faut garantir une économie du service des TIC de manière continue. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de nous. Nous parlons d'une stratégie nationale. D'un côté, le deuxième point, effectivement, vous avez un problème de mindset, donc de mental, de réflexion, de culture. Les entreprises, en fait, de manière générale, publiques ou privées, ont tout souvent mis l'informatique, pour parler un peu informatique, au rang un peu au second rang, parce qu'en fait, c'était pas ce qui rentre tout de suite dans la production. Donc, on va favoriser plutôt le matériel industriel que, par exemple, que le pur informatique. Donc, maintenant, avec la crise, les gens se rendent compte qu'il va falloir investir sur gagner du temps, réduire les gâchis, automatiser, etc. Et maintenant, nous faisons face à un autre besoin. C'est en fait, conscient qu'il faille investir dans le digital, de manière générale, le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire. Donc, c'est là où on intervient pour essayer simplement d'apporter cette conduite de changement, cet accompagnement-là, pour essayer un peu de cadrer les choses. Et là, nous butons à un problème beaucoup plus complexe. C'est d'abord, personne ne parle ici du coût d'acquisition, parce que ça reste relativement coûteux. On ne comprend pas comment on peut investir sur une licence, ou sur un logiciel, ou sur un service, sur une formation. On ne comprend pas comment ça peut coûter peut-être un peu moins cher qu'un matériel industriel. Donc en fait, il y a ce problème-là de maturité qui va s'accrocher à notre problème. C'est un problème de maîtrise des processus métiers. On ne peut pas automatiser le désordre. On ne peut pas automatiser le tel quel. À un moment donné, il va falloir passer par une étape de nettoyer, faire un peu donc de là, on appelle ça de la refonte des processus. Et pour le faire, il faut des compétences. Et là, je reviens à votre question. Aujourd'hui, nous arrivons aussi. Moi, j'ai eu des témoignages de pas mal d'étudiants. Et enfin, c'est même pas un témoignage. Il faut voir ce qu'ils font comme aujourd'hui comme études. Les programmes sont encore très 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 obsolètes. Donc il y a un déficit de compétences pas techniques. La technique en fait aujourd'hui avec Internet elle peut s'acquérir. Nous avons aujourd'hui sur le terrain des jeunes compétences dans différents domaines qui sont du digital qui restent encore en tout cas à mon avis très loin de ce que a besoin finalement le nouveau marché qui demande des compétences projet métier gérer changement dans lequel il va falloir maîtriser un savoir-faire, un savoir-être. Et ça, c'est une très grande problématique. Et donc, je termine par dire, s'il n'y a pas une vraie stratégie nationale tirée malheureusement, je dirais malheureusement dans le sens positif du terme, malheureusement par nos ministères, s'il n'y a pas une structuration, une stratégie nationale qui permettrait de garantir cette continuité de la demande.
La stratégie y est, hein, peut-être.
Justement, en fait, il y a peut-être qu'en ce moment, on est en train de d'y aller. Et je voudrais simplement, en même temps, je parle en fait à mes confrères ici. Je suis pas dans une position de confrontation avec des confrères. Je prêche qu'il va falloir travailler ensemble dans l'intérêt commun. Chacun trouvera son compte à un moment donné, mais l'intérêt commun passe avant l'intérêt individuel.
On est des acteurs économiques, et en tant qu'acteur économique, on doit être en capacité d'être des vrais compétiteurs. On ne peut pas être des acteurs économiques que opportunistes. C'est pas possible. On ne peut pas chercher et attendre que le marché du public, c'est un marché d'opportunité, c'est un marché. Il faut en assumer les conséquences pour ceux. Nous, chez Asmos Conseil, nous n'intervenons pas du tout sur le marché public, nous intervenons chez des privés et nous avons identifié un certain type de catégorie de clients avec lesquels on arrive à travailler. Et il y en a énormément. Et la demande est très grande. Mais il faut faire de la pédagogie. Il faut s'engager et s'investir durablement. Il faut qu'on monte nos entreprises à un certain niveau avec les ressources, les capacités possibles d'adresser un marché tel que le nôtre. Si le temps de go-to-market pour signer une offre, il est de 9 mois, ben faut avoir les reins solides pour approcher 2-3 clients et passer 9 mois à discuter avec eux, à s'entretenir avec eux, à faire des workshops avec eux, jusqu'à réussir à leur pour répondre à la question, il y a des nouvelles générations et on est en train de voir ce mixage qui se fait entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Ça devient intéressant, les réflexions. Quand il y avait beaucoup de blocages entre les uns et les autres, depuis 2012-2013, on voit que cette mixité-là, elle commence à prendre, elle commence à accrocher. On voit des jeunes qui prennent des postes de direction et du coup, les patrons leur font confiance, même dans le public. C'est extraordinaire ce qui se passe dans le public. Cette mixité, elle apporte de la compétence, elle apporte de la capacité à délivrer, à voir les choses différemment. À nous, en tant que prestataires de services, d'aller essayer d'être un émulateur de tout ça, directement ou indirectement, mais on est vraiment aujourd'hui dans une expérience, toujours dans la dynamique dans laquelle je parlais, dans un train d'expérience positif, parce qu'il y a une amélioration continue. Il faut laisser le temps pour que les choses se mettent en place, pour que les compétences se mettent en place. Et bien évidemment aussi, en tant qu'acteur, moi je regarde mes confrères, les Big Four, ici en Algérie, ben, ils investissent, ils recrutent à la sortie de l'école, et ils passent 3 ans à former les jeunes. Ça leur coûte très cher aussi, mais ils le font. Ça se fait partout dans le monde. À nous aussi d'aller soit être proche de l'université pour accompagner les universités, et puis peut-être dans un mois, on vous présentera notre projet, mais il faut être très engagé pour ça. Il faut être volontariste, il faut le faire de bon cœur. C'est ça, s'investir pour la nation. La nation nous doit plus que nous lui devons.
Oui, monsieur Rappé,
pour être très honnête, je ne pense pas être dans la position où je vais pouvoir estimer si effectivement la formation est bien ou mal faite, ou est-ce qu'en termes de quantité, on fournit assez de personnel qui vont pouvoir être qualifié et aborder cette situation-là. J'ai envie de revenir à un niveau un peu au-dessus et de dire quelle place concrètement occupe cette thématique-là dans l'espace public, dans les débats, comment nous l'abordons de façon générale au niveau de la société civile ou au niveau du législateur ou au niveau du monde économique. Et il est malheureux de dire, alors c'est pas M. Khadraoui qui était optimiste, j'aimerais pouvoir être optimiste, mais malheureusement on a l'impression que cette thématique-là n'est pas dans les top priorités des débats et des discussions qui a lieu aujourd'hui, alors que elle devrait être un positionnement bien au-dessus. On se réjouit aujourd'hui d'être à Radio Internationale, de pouvoir parler d'une thématique comme celle-là. On se réjouirait plus si cette thématique était abordée plus souvent, de façon plus systématique dans les médias, si ça devenait un réflexe dans notre façon de penser. Et c'est en fait, je pense, comme ça qu'on va pouvoir changer les mindsets, pouvoir changer les états d'esprit et pouvoir arriver à un niveau de maîtrise de ces technologies qui soit plus élevé. Ça va impliquer aussi derrière qu'il y aura forcément plus de jeunes qui s'intéresseront à ce secteur, il y aura des besoins en formation qui vont forcément être plus grands, et on va pouvoir de fait attendre en termes de qualité quelque chose de meilleur à l'avenir. Donc, oui, on revient toujours à cette question du mindset, à cette question de l'état d'esprit, et où est-ce qu'on place le numérique, l'économie numérique, les technologies de l'information et de la communication dans les thématiques générales qui sont abordées au sein de la société et au sein du monde économique. Mmh. Ensuite, par rapport aux législateurs, effectivement, alors c'est un débat, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il n'y a pas de stratégie, les avis vont diverger, mais j'ai envie de dire le législateur doit rester dans son rôle de législateur. Effectivement, il y a le marché public qui va venir driver tout ça, mais il doit y avoir une prise de conscience collective au niveau du monde économique pour pouvoir justement faire en sorte que ce soit un levier primaire dans l'évolution des TIC et dans l'évolution du numérique, et laissons le législateur dans son rôle et faisons en sorte plutôt que le monde économique dans sa globalité puisse aborder cette thématique-là sans forcément se référer systématiquement au législateur. Alors bien sûr, il y aura toujours des problématiques techniques, technologiques qui vont constituer un frein. Aujourd'hui, la question de la bande passante, aujourd'hui la question qui est primordiale de la protection des données va sans doute rester un frein pour un certain nombre de temps, mais il va falloir aborder ces thématiques-là pour pouvoir trouver les solutions et ensuite pouvoir construire quelque chose. Mais si on ne les aborde pas en tant que thématiques, fondamentalement, ça ne pourra pas avancer.
Mmh. Monsieur Khadraoui, qu'en est-il aujourd'hui de l'investissement dans ce créneau en Algérie ?
Il y a des investissements permanents. Le problème, c'est qu'il y a des difficultés d'investir sur l'architecture, serveur, etc., quand on ne produit rien. On ne fait qu'importer, et vu que la facture devient douloureuse, tout a pris cette année x2, x3, ça devient compliqué. Mais les entreprises ont toujours investi. Quand on dit les entreprises, nos institutions, les EPIC, les SPA, les grandes sociétés familiales investissent clairement et durablement. Dans le monde des systèmes d'information, on investit énormément. Dans le digital, la difficulté, c'est qu'on investit sur de la visibilité, et c'est de l'investissement qui passe par les boîtes de com, par les sociétés de digital, et qui est dissous parce que les grands, les GAFA, on n'arrive pas à capter la fiscalité autour de ça, et c'est dommage d'en être à investir plus sur de la visibilité que sur la construction de ces outils de production, comme disait Monsieur Babassi. Aujourd'hui, un système d'information, ça coûte des fois aussi cher qu'une unité de production. Être en mesure d'installer un grand ERP dans sa société, quand on est une société à plusieurs centaines, voire milliers de salariés, ben, ça coûte 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Et c'est aussi la valeur capitalistique qui augmente. Lorsque DHL en Allemagne installe le ERP SAP, c'est plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est aussi 12% de valorisation en bourse le jour même. C'est ça qui est extraordinaire. Et on n'en est pas là, on n'a pas une bourse dynamique, on n'a pas... Mais quand on fait un due diligence pour voir la santé de l'entreprise, bah, quand il y a une entreprise qui a un système d'information, qui a des process extrêmement clairs, parce que, comme il était dit, c'est des projets de transformation. On n'installe pas des nouvelles technologies, on ne crée pas du e-commerce juste pour créer du e-commerce. D'abord, on prépare ses process, on prépare la compétence de ses hommes, on définit qu'est-ce qu'on veut monitorer, quels sont les KPI sur lesquels on veut performer, du coup que l'on veut suivre. C'est bien de mettre du e-commerce en place, mais le plus gros de l'investissement, il n'est pas dans le site internet de e-commerce, il est dans le système d'information qui va gérer la supply chain, qui va gérer. Aujourd'hui, si on était bon en supply chain, je peux vous garantir qu'on en aurait beaucoup des sites de e-commerce. C'est pas le problème de la monétique. C'est le problème de la performance. Il faut des sociétés de transport performantes. Il faut des échanges de données informatiques entre la société qui commercialise et la société qui transporte, entre le hangar où il y a le produit A, le hangar où il y a le produit B et le transporteur, et même le transporteur du dernier kilomètre qui est pas le même. C'est ça les problématiques qu'on a aujourd'hui. Si on n'a pas une traçabilité de l'information, si on n'a pas une valorisation de l'information par des documents, les bons de commande, etc., si on n'a pas la capacité de monitorer tout ça, ben on parlera de faire des sites internet et on parlera de faire du digital par les réseaux sociaux, mais on ne créera pas de valeur ajoutée capitalistique durable dans nos entreprises.
Monsieur Babassi,
j'aimerais en fait un peu revenir sur un point très important. Et pour, j'espère en fait que nos auditeurs auront une information beaucoup plus claire. J'espère que nous ne parlons pas chinois en fait. Alors.
Je ne pense pas.
Voilà, en fait, non, parce que c'est pas des thèmes classiques en fait. Mm-hmm. Mais en parlant du principe suivant, toute entreprise aujourd'hui a besoin d'automatiser sa gestion. Que vous soyez une TPE de 1-10 personnes, une PME, une autre entreprise, ça c'est clair, vous devez avoir de l'informatique pour un peu simplifier. L'informatique, ça coûte, c'est pas forcément gratuit, mais c'est pas forcément extrêmement cher. En fait, si on n'est pas capable de mettre un ratio pour comparer en fait ce que coûtent mes problèmes et ce que coûte mon investissement en termes de système d'information ou d'informatique, si je ne sais pas ce que ça me coûte et ce que je gagne, je ne saurais pas prendre la décision d'investir. Déjà il faudrait que nous ayons une démarche justement pour que, comme tout à l'heure la dîme sur la vie, de sensibiliser, etc., former, on va dire, éduquer nos partenaires à cette vision-là. Il nous arrive nous-mêmes, par exemple, de dire je ne vous donne pas de solution parce que tu ne comprends pas ton problème, tu ne sais pas ce que ça te coûte. Donc c'est même pas la peine de m'engager avec toi. Tu vas juste me faire perdre du temps. Et donc du coup, dans l'éthique, il y a le mot éthique. Donc c'est très important d'associer en fait les deux à cela. Maintenant, regardons la chose de manière beaucoup plus stratégique. Nous sommes en crise. Nous avons besoin de booster nos entreprises, notre économie. Et nous avons besoin de créer de la valeur ajoutée, de la valeur pour pouvoir éventuellement l'exporter, sachant aussi que nous avons besoin d'abord de faire bien chez nous avant de faire bien ailleurs.
Oui.
Ok. Maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. C'est pas uniquement les grandes entreprises qui vont pouvoir tout seul régler les problèmes de la crise. Nous sommes d'accord. Donc il y a un écosystème assez complexe. Université, école, État, leur tutelle opérationnelle, les entreprises, du consulting, etc. Tout ce monde-là doit travailler de concert, doit d'abord être suffisamment lui-même connecté, suffisamment informatisé. Sans cela, vous allez avoir une superbe entreprise entièrement robotisée. Hein. Par contre, elle est dans un environnement où nous sommes encore face à Hajari. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut voir la chose suivante. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il faut une stratégie d'État, je ne disais pas que l'État doit donner du boulot, c'est pas du tout ça. Il faut des stratégies qui permettraient à l'écosystème de se structurer pour créer un marché durable dans le temps. 1. 2. aller vers tout ce que nous appelons en fait les dynamiques de recherche et développement permettant à nos étudiants, à nos compétences, nos jeunes, de se mettre dans le bain, mais pas uniquement au niveau technique. Il va falloir aussi y mettre un peu de savoir-faire. Une entreprise aujourd'hui en temps de crise, quand elle fait appel à nous, elle n'attend pas qu'on lui ramène des débutants. Elle s'attend à avoir un résultat parce que c'est aller à la stratégie business avec son information. Donc en fait, elle a besoin de résultats immédiats et de bons résultats. Du coup, nous avons besoin de ressources et de compétences, mais sans cette dynamique-là d'écosystème, nous ne pourrons pas avoir en fait un service de valeur ajoutée. Du coup, nous ne pourrions pas aussi nous développer. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'à un moment donné, en Europe, enfin plutôt ailleurs dans le monde, il y a ces projets R&D. Aujourd'hui, quasiment aucune entreprise algérienne ne fait un effort pour ça, sauf ceux qui le font de manière purement de marketing, ne font pas d'effort pour créer des laboratoires R&D, pour driver, etc., pas uniquement l'université, et les prestataires de services. Sans cette dynamique-là, nous ne pourrions pas avoir des projets suffisamment intéressants, on ne pourrions pas nous approprier la technologie, etc. Donc, pour résumer, nous avons besoin d'une dynamique. Un, il faut faire comprendre à l'ensemble des acteurs TPE, PME, grand compte qu'il va falloir investir encore plus sur les TIC. Deux, il va falloir faire comprendre à l'écosystème, il va falloir en fait se rapprocher, sortir de ces bulles pour pouvoir créer une dynamique R&D, d'intelligence, une dynamique de savoir et de savoir-faire. À ce moment-là, on aura un marché permanent, durable. Et là, en ce moment-là, on verra en fait finalement émerger de véritables compétences, de véritables services de qualité.
L'impact des TIC sur la compétitivité, pour terminer, M. Khadraoui.
J'en ai parlé tout à l'heure. Plus on va avoir une maturité de gestion par les systèmes d'information, plus on va avoir des infrastructures qui sont capables d'évoluer, d'être scalables rapidement à des coûts intéressants. Plus on va pouvoir mettre en place des canaux de distribution digitaux intéressants. Plus on va pouvoir allier tout ça avec les réseaux sociaux. Plus on va pouvoir mettre en place des outils de collaboration. Plus on va permettre de rapprocher le client à l'entreprise, le collaborateur de son lieu de travail à son client, plus on va accélérer la performance. Il faut savoir une chose, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Donc dès qu'on a des systèmes qui nous permettent de mesurer ce que l'on fait, automatiquement on peut agir. Donc indéniablement, la performance accroît par défaut. Maintenant, il y a d'autres nouvelles technologies. On ne parle pas des nouvelles technologies liées à la robotisation de nos industries. Ça aussi, c'est de la performance. Est-ce qu'on va rester lié à la manutention, ou est-ce qu'on va robotiser la manutention? Est-ce que l'on va automatiser pardon est-ce qu'on va automatiser l'ensemble des tâches ou une partie des tâches? Il y a des acteurs majeurs de ça. L'éthique intervient aussi dans la maintenance industrielle. Plus on a des systèmes de gestion prévisionnelle et automatisée de la maintenance, plus on arrive à être performant dans nos industries. Donc oui, l'éthique sont un levier majeur d'accroissement de la performance et même d'atteinte de l'excellence opérationnelle.
Oui, Monsieur Rabhi, un dernier mot.
Eh ben, un dernier mot, on remercie tout simplement Radio International d'aborder des thématiques qui sont très intéressantes et encore une fois qui devraient occuper beaucoup plus d'espace au sein des médias, au sein de l'espace public, et qui devraient être abordées de façon plus systématique et plus souvent, afin d'amener justement une véritable prise de conscience sur le potentiel qui existe dans notre pays et qui pourrait être bien mieux exploité à l'avenir.
Merci beaucoup Monsieur Rabhi, merci à vous également Monsieur Babassi et à vous Monsieur Khadraoui d'avoir pris part à cette émission qui prend fin. Nous dirons économie la semaine prochaine.